Eh bien, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de votre présence, que ce soit dans les locaux de la fenêtre, qui nous fait une fois de plus le plaisir de nous accueillir, ou que vous soyez, que vous suiviez, cette intervention en visioconférence. La séance qui nous réunit ce soir portera sur l'ouvrage « Les intelligences particulières, enquête sur les maisons hantées », paru en 2021 aux éditions Vue de l'Esprit. Au passage, si l'intervention vous convainc, vous avez des exemplaires que vous pouvez acquérir, hein, juste là-bas, auprès de Godefroy. Rappelons-le. L'auteur, Grégory de Laplace, nous fait l'immense plaisir et l'honneur d'être parmi nous ce soir pour présenter ce livre et en discuter avec nous tous le contenu. Et je me fais ici la voix de l'ensemble des membres du Bistrot des Ethnologues pour le remercier d'avoir accepté notre invitation. J'en profite pour remercier également l'ensemble de nos partenaires qui rendent ces séances du bistrot possibles, à savoir La Fenêtre, la DRAC Occitanie, et l'association Contact et la librairie La Cavale. Et bien évidemment, vous tous qui soutenez le bistrot. Petite annonce au passage, la séance du début du mois de mars a été reportée au 20 juin, celle de Clara Lemonnier, sur le grand livre des guérisseuses, et il y aura également une séance le 6 juin, la prochaine, à la Cavale, justement, avec Vincent Dubois sur « Contrôler les assistés, genèse et usage d'un mot d'ordre ». Voilà pour les annonces. Je n'ai rien oublié. C'est parfait. Pour en revenir à notre invité, Grégory de Laplace est anthropologue, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, le PHE, et membre du groupe Société, Religion et Laïcité, le GSRL, qui est un UMR CNRS. Il a obtenu, et ce n'est pas rien, la médaille de bronze du CNRS en 2015. Son travail sur les apparitions ne date pas de l'ouvrage qui nous intéresse ce soir, mais remonte à sa recherche doctorale au début des années 2000, sous la direction de Robert Tamayon, et sa thèse intitulée « L'invention des morts en Mongolie contemporaine, sépulture, fantômes, photographie ». Son intérêt pour ces questions remonte peut-être au-delà de ces dates, mais je lui laisse le loisir de nous en dire un peu plus à ce sujet. Le livre qui nous concerne ce soir nous emmène cependant loin de la Mongolie pour prendre place dans un contexte plus proche, du moins géographiquement parlant, car pour le reste, c'est une toute autre affaire, puisqu'en effet, il sera question ici de maisons hantées situées en Grande-Bretagne, en Angleterre, et de comptes rendus d'apparitions dans les années 1930-1940 pour la plupart. Avant d'entrer dans le vif du sujet, ou plutôt pour y rentrer directement et de façon plus intelligible, permettez-moi, s'il vous plaît, une fois n'est pas coutume, de me raccrocher à une anecdote personnelle. Il y a une dizaine d'années, je me promenais dans la campagne taïwanaise avec mon épouse, ses parents, qui étaient originaires de la région, et un ami politologue français. Politologues et français sont importants ici. Qui était venu nous rendre visite en vacances. Quand nous sommes tombés devant une vieille maison abandonnée, mais néanmoins accessible, nous avons décidé, mon ami et moi, d'aller y faire un tour pour voir à l'intérieur ce qui se passait, la famille nous attendant en dehors, peu emballée par l'initiative. À notre grande déception, mais on pouvait s'y attendre, la demeure était désespérément vide, à l'exception cependant d'une tablette aux ancêtres abandonnée sur le sol. En un mot, il s'agit d'une pièce de bois rectangulaire, gravée et posée à la verticale sur un socle. Généralement placée dans un sanctuaire ou un hôtel familial, cette tablette sert à rendre le culte aux ancêtres de la famille concernée, dont la généalogie est généralement conservée avec la tablette. Mon ami me demanda si ce ne serait pas une bonne idée de la récupérer, cette tablette. Fort de ma connaissance très relative sur ces sujets, je lui répondis bien évidemment que non. Et nous sommes donc ressortis de la maison, la tablette sous le bras de mon ami. De retour à la maison familiale, je ne pouvais que remarquer le regard décontenancé de mon beau-père fixant l'objet du délit dès qu'il le pouvait. La confrontation fut heureusement de courte durée, mon ami devant rentrer à la ville le soir même, emportant avec lui la dite tablette. Je pensais bien naïvement que cela suffirait à clore l'incident, mais le lendemain matin, mon beau-père se plaignait d'avoir passé une nuit horrible, perturbée par des bruits inhabituels et des présences oppressantes qui revenaient d'ailleurs le tourmenter les nuits suivantes. Ma belle-mère en finit par être agacée, mais comme mon beau-père finit par tomber malade, il fallut l'emmener chez le médecin pour en traiter les symptômes, et à notre retour à la maison, organiser offrandes et prières auprès des divinités et ancêtres de la maison afin d'éconduire les fantômes qui s'y étaient malencontreusement introduits. Après cela, les choses reprirent leur cours ordinaire. Du moins, par chez nous. Car j'apprenais bientôt que, depuis son retour à la ville, mon ami, enfin le compagnon de mon ami plutôt, n'arrivait plus à trouver le sommeil dans son propre appartement en présence de la fameuse tablette. Il demanda donc à mon ami de s'en débarrasser. Mais s'il est facile de jeter un bout de bois, ce n'est pas évident d'expulser des fantômes qui ont fini par prendre goût à retrouver la fréquentation des vivants. Mon ami dut donc se mettre en quête d'un nouveau foyer pour la compagnie qui était attachée à la tablette. Après avoir essuyé plusieurs refus, il trouva néanmoins l'aide de nonnes bouddhistes qui acceptèrent d'accueillir la tablette et les esprits dans leur sanctuaire. Non sans condition cependant, il fallait d'abord identifier la famille à qui appartenait la tablette autrefois, qui en étaient les représentants, et les faire venir directement pour un rite afin d'introduire la tablette dans le sanctuaire. Comme toute la lignée était partie émigrer au Canada des décennies plus tôt, cela prit un certain temps. La morale de cette histoire, si vous voulez la savoir, si vous avez un ami anthropologue et qu'il vous donne un conseil, suivez-le. Mais si je vous ai relaté cette expérience, sans doute la plus proche me concernant ayant trait aux apparitions, c'est non seulement parce que l'ouvrage de Grégory de Laplace m'y a fait immédiatement penser et réfléchir, mais aussi parce que j'ai éprouvé beaucoup de difficultés à rendre moi-même compte de situations aussi complexes. Et je soutiens ici que le terme « complexe » n'est en rien galvaudé, tant elle relève ces situations de l'enchevêtrement de sensibilités différentes, qu'il est difficile d'ailleurs de ne pas trahir dans la restitution, et de la déconcertation qui s'exprime de manière diverse en fonction des acteurs. Trouver le fragile équilibre qui permettrait de rendre compte de cette complexité sans pour autant transiger avec la rigueur anthropologique est précisément et très certainement la première qualité de ce travail de Grégory de Laplace. Mais c'est loin d'être la seule. L'ouvrage a de quoi surprendre les lecteurs, non seulement par son contenu, mais aussi par sa forme. Le propos est concis, il tient en moins de 200 pages, mais qui sont particulièrement denses et riches, supportées fort heureusement par une plume admirable qui rend ces pages très accessibles. Il s'agit assurément d'une ethnologie, mais elle ne repose pas sur une ethnographie au sens classique du terme. Le corpus, en effet, est composé essentiellement de sources de seconde main, plus exactement donc des comptes rendus d'enquêtes menées dans les années 1930-1940, par des chercheurs missionnés par la très sérieuse Société pour la recherche psychique, fondée à Londres en 1882. Loin de se révéler caricaturale, ces enquêtes sont d'une très grande minutie, tout en présentant une importante hétérogénéité selon les études ou les cas étudiés, et surtout selon les profils des chercheurs qui sont impliqués et dont certains affichent un évident scepticisme. Le tour de force de Grégory de Laplace est précisément ici de faire ressortir ce qui constitue l'unité de ce matériau, en l'inscrivant dans une anthropologie contemporaine des croyances. En s'assignant l'objectif de décrire et de comprendre ce qu'il se passe dans ces maisons hantées anglaises, la façon dont agissent ces occupants et ce que sont les fantômes, l'auteur nous invite ici à réfléchir sur les contours du discours anthropologique et de l'écriture ethnographique, ainsi qu'aux limites des catégorisations savantes qui ont été d'ailleurs éprouvées par ces chercheurs, ces enquêteurs qui ont mené ces recherches dans les années 30-40 et qui ont tenté donc de comprendre et d'expliquer les phénomènes qu'ils étaient amenés à investiguer. Comme le souligne l'auteur, ce qui est perçu ne peut se réduire complètement au ou s'expliquer complètement par le contexte, qu'il soit psychologique, social ou culturel, qui permet de percevoir ces choses. Mais tout cela, je vais le laisser à présent vous en parler et vous emmener visiter ces lieux si particuliers que sont les maisons hantées, non sans le remercier une fois de plus pour sa présence et en vous souhaitant à tous et à toutes une agréable séance. Grégory, merci beaucoup.
Merci. Ben en effet, on a envie de continuer à t'entendre parler, en fait, à t'écouter parler, ou s'arrêter là, en fait, et donc applaudir et aller boire un verre, parce que tout est dit, ou en tout cas, c'est parfaitement introduit. L'enjeu là de ma présentation, c'est d'ouvrir la discussion qui va suivre, ni de raconter l'ensemble du livre, d'essayer de parler de complètement autre chose. Pour vraiment discuter avec vous de ce livre que je suis venu, que vous l'ayez lu ou pas. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je vais donner juste des éléments qui permettront d'en comprendre l'intention et d'en saisir un petit peu les contours, comme tu disais. Donc, en effet, c'est un livre sur des maisons hantées, et c'est un livre qui aborde le sujet des maisons hantées à partir d'un lieu, l'Angleterre, donc qui est plus qu'un lieu, en fait, un ensemble de lieux, un pays, l'aborde par un type particulier de matériaux, en effet, des matériaux d'archives. C'est un livre sur les maisons hantées qui aborde les maisons hantées par des enquêtes sur des enquêtes. Et je vais revenir sur ce que ça implique. Et donc, c'est l'occasion, mais en fait le risque pris par l'anthropologue, l'ethnologue, d'aller dans les archives pour y trouver le matériau de sa réflexion anthropologique. Donc, quelles sont ces archives ? Ces archives sont des documents, un ensemble de documents, les archives de la Société pour la Recherche Psychique, Society for Psycho Research, qui, comme le disait Jérôme, est une institution très sérieuse, en tout cas fondée par des gens très sérieux, un petit peu facétieux quand même, mais très sérieux la plupart du temps, qui sont des personnalités scientifiques, des personnalités politiques de la fin du 19e siècle en Angleterre. En 1882, presque réunis dans une salle, ils décident de fonder cette société avec un objectif précis, d'étudier scientifiquement ce que, d'une part, des associations spiritualistes diverses prennent pour acquis, et d'autre part, ce que les sciences expérimentales refusent de prendre en considération. Donc, ces choses-là, qui sont prises pour acquis par les uns et niées, en fait, dénigrées par les autres, ce sont toute une série de phénomènes entre lesquels l'unité n'est pas évidente, même pour les fondateurs de la société. C'est toute une série de phénomènes qui sont la transmission de pensées, les maisons hantées, la psychokinèse, la capacité à faire bouger des objets à distance, possiblement par la force de l'esprit. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre ? Des phénomènes moins connus. J'en oublie un gros, mais des phénomènes moins connus comme les auras, les capacités à produire des effets sur la matière, etc. Donc, ces phénomènes, comme je le disais, sont pris pour acquis à ce moment-là par tout un mouvement qui annonce une révolution, la capacité à discuter avec les morts à travers des médiums qui fleurissent à ce moment-là, qui prolifèrent à travers l'Europe et les États-Unis, notamment. Ces scientifiques, ces personnalités scientifiques, ces personnalités politiques sont intéressés par ces phénomènes. Tout le monde l'est, hein, tous les intellectuels, à un moment ou à un autre, dans la deuxième moitié du 19e en Europe et aux États-Unis, s'intéressent à ces phénomènes. Ils défraient la chronique. Hein. Mais la plupart des scientifiques dans les institutions académiques officielles jugent que ces phénomènes sont juste l'effet des croyances et d'une espèce de, comment dire, de survivance croyances qui mériteraient d'être laissées de côté et dépassées par la recherche scientifique. Et donc, ces personnalités décident de se mettre au milieu de ces deux tendances-là en disant on est d'accord avec aucun des deux. On n'est d'accord ni avec ceux qui veulent accepter sans preuve l'existence des morts, ni avec ceux qui la nient a priori sans examen scientifique. Donc, nous allons consacrer notre temps et notre énergie considérable, à soumettre à l'examen scientifique ces faits comme n'importe quel autre fait. Donc, parmi d'autres activités, ils cherchent des maisons hantées et envoient leurs enquêteurs dans des maisons hantées pour y faire des rapports, pour voir ce qui s'y passe et tout ça. Rapidement, en fait, ils sont contactés directement par les témoins de ces phénomènes qui leur demandent de venir chez eux pour les aider à faire face à ces apparitions dont ils ne savent pas quoi faire. Donc, les archives, quand on commence à s'y plonger, sont des documents fascinants. En fait, hein. C'est une série de dossiers, chaque dossier étant constitué par un cas qui en général s'ouvre par une lettre écrite par les habitants d'une maison qui disent « S'il vous plaît, venez chez moi. Je suis confronté à quelque chose d'étrange, voire je ne peux plus dormir chez moi, c'est insupportable et j'ai peur. » Mais toutes les palettes en fait, d'émotions entre la curiosité intéressée et la peur panique. Donc, après cette invitation et après la venue des enquêteurs, on trouve donc dans ces archives une série de documents d'une quantité variable selon les cas, selon les rebondissements dont l'affaire fait l'objet, mais qui est constitué donc de rapports, d'articles de journaux, de correspondances entre les témoins et les enquêteurs. Donc, comment on en vient à travailler sur des archives en tant qu'ethnologue ? Ben, à la recherche de matériaux d'un type particulier, justement, qu'il est difficile de trouver ailleurs. Ma carrière d'ethnologue a commencé en Mongolie, comme l'a rappelé Jérôme, où, de fil en aiguille, j'ai été amené, pour des raisons sur lesquelles je peux revenir aussi, où j'ai été amené à travailler sur les rencontres d'une population de pasteurs nomades avec les fantômes. En fait, l'idée, le projet de recherche, c'était d'étudier les relations aux morts. Il y a plein de manières d'étudier les relations aux morts, mais sur un terrain, on suit en fait surtout les matériaux qui nous sont donnés à observer. Et surtout quand il s'agit de morts, de présence des morts, on ne peut pas vraiment commander ce qui va nous être donné à observer ethnographiquement. Et donc, de fil en aiguille, au fur et à mesure des événements ethnographiques qui ont émaillé mon terrain, auprès de pasteurs nomades d'Orvet du nord-ouest de la Mongolie au début des années 2000, je me suis mis à m'intéresser aux présences des morts quotidiennes, à la façon dont les morts peuplaient, intervenaient dans le quotidien des vivants. Si je m'y suis intéressé, c'est parce que les morts avaient une présence ambiguë. À la fois, ils étaient là, d'une manière ou d'une autre, mais en même temps, ils n'étaient pas souhaités. Il y avait quelque chose, au fur et à mesure de mes enquêtes sur les relations aux morts, sur les rituels qui encadrent la mort, il y avait quelque chose comme une insistance à maintenir une distinction très nette entre les morts et les vivants. Ce qui peut paraître un petit peu contre-intuitif. On a toujours l'impression que des populations non occidentales, que nous, on est les mauvais élèves des relations aux morts, et qu'en Europe, c'est là où on nie la mort, où il y a un tabou de la mort, où on a désappris à entretenir des relations avec nos morts, et qu'on les exclut, on ne veut pas les voir, et qu'il faut les réaccueillir et retisser du lien avec les morts. Sans doute, mais en fait, toutes les populations non européennes ne vivent pas en bonne intelligence avec des morts dont ils souhaitent entretenir la présence et avec lesquels ils souhaitent cultiver des relations au jour le jour. Les Mongols, les pasteurs nomades mongols du Nord-Ouest, en ville c'est un petit peu différent, on pourra revenir là-dessus si vous voulez, mais les pasteurs nomades d'Orvet du Nord-Ouest considèrent que les morts n'ont rien à faire avec les vivants. D'une part, au moment de la mort, il faut les expulser du lieu où ils ont vécu, couper les liens avec les vivants, de risque pour éviter qu'ils emmènent leurs proches, ceux qu'ils ont aimés avec eux. Et ensuite, il faut éviter qu'ils traînent à l'endroit où ils ont vécu. Il faut aussi garantir que les morts se réincarnent le plus vite possible. En gros, ils n'ont rien à faire dans le monde en tant que morts. Hein. Ils ont vocation à devenir de nouveau des vivants par la suite, et en attendant, on ne veut pas les voir. Mais évidemment, malgré les efforts fournis pour maintenir les morts à distance, les morts apparaissent. Et ce sont ces récits que je me suis donné pour vocation de recueillir en me disant, finalement, les anthropologues ont eu tendance à étudier les fantômes à partir des cosmologies, des idées générales qu'on s'en fait, comment les fantômes émergent, quelles catégories de fantômes il y a, et on trouve moins de données précises sur les conditions d'une rencontre. C'est-à-dire la façon dont telle personne a à un moment été en contact avec tel mort qui est revenu. On en trouve, hein, mais c'est beaucoup plus rare. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de voir comment les morts apparaissent en Mongolie. Et je me suis mis en quête de récits. J'en ai trouvé des superbes, parce que j'ai rencontré une narratrice fantastique qui n'est pas spécialiste rituelle, qui n'a aucune qualification religieuse particulière, mais qui a des expériences de vie et une sensibilité qui a fait qu'elle connaissait des histoires, il lui était arrivé des choses, et elle avait retenu, elle avait une mémoire et un talent de narratif spécifique pour raconter les histoires des autres. Et donc j'ai réussi à recueillir un petit corpus de récits à partir duquel j'ai construit mes recherches sur les morts, les relations à l'invisible en Mongolie, que j'ai poursuivies jusqu'aux années 2010, dans d'autres contextes, à la ville, tout ça, à la ville où au contraire la relation aux morts est de nouveau autrement cultivée, grâce à ces personnages fantastiques, ces couteaux suisses de la relation aux morts que sont les chamans. Ils peuvent tout faire en une personne. Vous avez quelqu'un qui peut à la fois les voir, qui peut à la fois discuter avec eux et tout ça, ce qui en fait se trouve pas sous le sabot d'un cheval, sans jeu de mots, ce qui en tout cas se trouvait plus dans le nord-ouest de la Mongolie. On pourra revenir là-dessus. Mais tout ça pour dire que si on veut poursuivre un travail sur les apparitions de morts et sur les récits de rencontres avec les morts, les fantômes, ou n'importe quel esprit sur le terrain, eh bien, il faut trouver des récits. Et donc, il faut trouver des personnes à qui c'est arrivé. Or, c'est extrêmement rare. Hein. Tout le monde a une histoire de fantômes autour de nous, mais il faut aller les chercher, il faut avoir la confiance de la personne pour nous la raconter. Et puis, souvent, ces histoires ne sont pas ce qu'on s'imagine qu'elles seraient quand on vous dit « Ouais, moi, il m'est arrivé quelque chose. » Toutes les histoires ne sont pas aussi belles que celles de Jérôme. Donc, souvent, en fait, les enquêtes ethnographiques sur les récits de rencontres avec des esprits et des fantômes sont difficiles à mener. Et si on veut étendre le spectre comparatif pour voir, en fait, comment, dans différents contextes, à différentes époques et dans différentes cultures, disons le mot, si on veut comprendre donc comment ces choses-là varient dans tous ces contextes-là, ou ne varient pas, ce qu'il y a de stable et ce qu'il y a de variable dans les récits de rencontres avec les morts et l'invisible en général, eh ben, on est face à un problème de documentation. Et au fur et à mesure que je me grattais la tête pour me demander si ce projet, c'était possible de le continuer, à la fois en Mongolie, où en fait mes amis en avaient vraiment ras-le-bol que je les interroge tout le temps sur la mort, ou ailleurs, où je n'avais pas vraiment d'accroche ethnographique qui me permettait de travailler efficacement et honnêtement, au fur et à mesure, je me suis demander si il n'y avait pas des sociétés savantes qui s'étaient intéressées à ces phénomènes et en avaient recueilli en fait sur une longue période et potentiellement à différents endroits. Si je me suis demandé ça, c'est parce que en fait j'avais entendu parler de cette société savante, la Société pour la recherche psychique, dont les archives sont basées à Cambridge. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Il paraît qu'ils sont toujours en train de recueillir des récits. Donc moi, je pourrais aller à travers la France, à travers mon réseau d'amis, dans une région particulière, recueillir des récits, mais en fait, ça sera toujours un petit peu partiel, ça sera très long, et ça sera toujours un petit peu limité, quoi. Et là, tout d'un coup, avec l'idée qu'il puisse y avoir une base de données de récits de rencontres avec des fantômes, tout d'un coup, ça ouvrait une perspective de recherche fantastique, en fait. Et ça ouvrait une perspective comparative fantastique. Donc, j'y suis allé, et ce que j'ai trouvé a dépassé mes espérances, pas parce qu'il y en avait beaucoup, bon, il y en a beaucoup, mais en fait, sur une période un petit peu moins longue que ce que je pensais, c'est-à-dire que c'est surtout entre 1900 et 1950, en fait, les plus intéressantes sont entre 1900 et 1950, mais les archives vont en gros de 1882 donc à 1975-80. Hein. Mais au début, en fait, ils ont du mal à trouver des maisons hantées dans lesquelles ils puissent enquêter. Ils avaient le même problème que moi, quoi. Sauf que comme ils sont une société, les premiers enquêteurs, des enquêteurs succèdent aux premiers enquêteurs, et donc au bout de 20 ans, ils y arrivent, quoi. Moi, j'avais pas 20 ans à consacrer. Si on fait le compte, finalement, j'avais passé plus de 20 ans à travailler là-dessus, mais le temps passe vite. À la fin, pour des raisons sur lesquelles je vais revenir d'ici la fin de cette présentation, si je ne suis pas trop bavard, à la fin, ça ne les intéressait plus trop, en fait. Il y a une désertion à un moment du sujet des maisons hantées. En fait, des maisons hantées comme lieu de savoir, des sciences psychiques, la société ne croit plus que les maisons hantées sont un bon endroit pour étudier les sciences psychiques. En fait, les maisons hantées, c'est trop compliqué, ça pose trop de problèmes du point de vue de l'établissement d'une science objective des phénomènes paranormaux. Hein, c'est ce qu'ils finissent par conclure. Je reviendrai là-dessus. Mais en tout cas, donc, un énorme corpus de cas, des centaines, que je n'ai pas pu encore tous lire, qui mettent en scène plusieurs enquêteurs à différentes époques, qui chacun donc va dans les maisons hantées où il est appelé, il ou elle, à la demande des habitants, pour y faire les rapports et consigner ce qui s'y passe. Donc voilà comment on arrive à étudier des archives en tant qu'ethnologue, alors qu'on s'était formé à l'observation participante. La question ensuite, c'est comment on étudie des archives en tant qu'ethnologue ? Là, la réponse est, il y a une réponse courte et une réponse longue, comme souvent. La réponse courte, c'est pas comme un historien. Et la réponse longue, je vais essayer de la développer un petit peu. Pas comme un historien, ça veut dire quoi ? Et là, je pense que Jérôme, t'as dit le mot qui était le terme clé, et on va voir pour quelles raisons, en fait. Les raisons sont multiples. Le terme clé, c'est le contexte. C'est-à-dire que, en tant qu'historien, la tâche du chercheur, c'est de restituer le contexte d'une époque et ce qui s'est passé autour d'un événement qui permet de le comprendre dans le contexte où il s'est déroulé. Hein. Qu'est-ce qui y a amené, qu'est-ce qui en a découlé, et quelles sont les différentes lignes de force politiques, sociales, qui le traversent et qui permettent d'en rendre compte. Si je dis que je n'ai pas fait mon travail d'historien, je n'ai pas fait un travail d'historien, c'est que je me suis défilé par rapport au travail de contextualisation qui aurait été la tâche première, en fait, l'inquiétude première de l'historien. C'est-à-dire que je me suis contenté de ces archives. Ce qui, a priori, enfin, si je l'avais dit comme ça à des collègues historiens en disant je vais étudier des archives d'une époque en particulier sur cette société savante, et c'est tout, ils me diront mais tu ne vas pas étudier les journaux de l'époque ? Tu ne vas pas étudier les carrières des différents scientifiques qui ont fondé la société et qui ont fait que le protocole expérimental qui a été mis en œuvre à cet endroit-là est devenu ce qu'il est. Et tu ne vas pas non plus étudier l'histoire sociale de l'Angleterre de cette époque-là pour voir comment étaient composés les foyers dans lesquels les maisons hantées survenaient. Ben non. Y a quelque chose, du coup, et c'est presque l'essentiel de ce que je voulais vous présenter ici, il y a quelque chose qui permet de réfléchir dans cet écart-là et dans ce défaussement-là. Il y a quelque chose qui permet de réfléchir à la méthode spécifique, la méthode distinctive de l'ethnologie ou de l'anthropologie, quel que soit le nom qu'on veuille lui donner. Vous comprendrez que je les considère comme synonymes. On peut en discuter aussi si vous voulez, ce n'est pas la discussion la plus intéressante, mais on va les considérer comme synonymes. La méthode distinctive de l'ethnologie ne tient pas à l'observation participante. Et en fait, c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça. Je l'ai remarqué aussi en faisant part de mon projet à des collègues qui me disaient « Mais du coup, tu ne vas plus faire d'ethnologie ?» Si, je ne vais juste pas faire de l'ethnologie avec de l'observation participante. Et c'est vrai que on théorise tellement peu l'épistémologie distinctive de notre discipline que les conditions auxquelles on fait de l'ethnologie et les conditions auxquelles on n'en fait plus et les conditions dans lesquelles on peut les faire sur différents types de matériaux ne sont pas du tout claires. Or, il me semble que, et d'ailleurs, c'est pas qu'il me semble, c'est que si on réfléchit à l'histoire de l'anthropologie et qu'on enlève toutes les, tous les auteurs ou toutes les œuvres qui n'ont pas été faites à partir d'observations participantes, même celles qui n'en comptent aucune, hein, on perd des œuvres majeures. Hein, je ne dis pas que tout saute, hein, mais on perd des œuvres majeures. On perd beaucoup de travaux de Salins, sans parler des travaux de Lévi-Strauss, mais bon, ça c'est encore autre chose. En tout cas, on perd une partie de l'anthropologie qui est très précieuse et qui est beaucoup plus prégnante que ce qu'on pense, c'est l'anthropologie historique. L'anthropologie historique, en fait, je trouve que c'est quelque chose dont on parle depuis assez peu de temps dans la discipline, mais qui est vraiment importante dans son épistémologie. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a abandonné l'observation participante comme cœur de ce qui distingue l'anthropologie en tant que méthode, eh ben, on se retrouve avec le problème de qu'est-ce qui la distingue ? Et je pense, et c'est ce que je voulais vous proposer avant de passer à autre chose, parce que ce n'est pas, c'est pas l'objet non plus de la discussion de ce soir, que c'est un certain rapport à la généralisation. Et c'est un certain rapport entre un cas particulier et très localisé et un problème très général dont le spectre d'application est possiblement infini, ou en tout cas coextensif à l'humanité. C'est-à-dire que les anthropologues, ils vous parlent d'un endroit particulier, mais quand je vous dis un endroit, c'est une famille, c'est deux familles, c'est trois familles, hein, et à partir de ces quelques familles, de ces trois rituels qu'ils ont vus et de ces quatre entretiens qu'ils ont faits, je caricature, mais c'est un petit peu la façon dont les sociologues nous voient, quoi. À partir de ça, eh ben, ils vous parlent pas de la Mongolie en particulier, ils vous parlent pas de l'Angleterre en particulier, ils vous parlent de l'humanité. Hein. Donc les anthropologues, c'est un petit peu les plus présomptueux de tous les chercheurs en sciences humaines, c'est ceux qui, à partir de l'échantillon le plus réduit, vous parlent de la chose la plus générale possible. La façon dont on passe de l'un à l'autre est extrêmement mystérieuse. Et en fait, ça relève plus d'un art que d'une méthode particulière. Hein. C'est pas pour rien, c'est pas moi qui le dis. Hein. Quand Jell parle de l'art de l'anthropologie, et il y a beaucoup de c'est un peu un gimmick de la discipline, et ben c'est aussi pour cette raison. Mais comment on peut faire ça ? Mais justement, en faisant ce tour de passe-passe, qui vise à considérer un cas comme n'étant pas un échantillon. En fait, les cas qu'on étudie, on ne les généralise pas et on ne les analyse pas par en les considérant comme des échantillons. C'est pas le mot que je voulais utiliser. Ouais, bon, c'est pas grave. Là, l'idée de ce travail, c'était de travailler, donc de me concentrer sur un cas ou une série de cas à une époque donnée et de parler d'un problème général qui était le problème des apparitions. Ces cas, donc, c'est des cas qui sont des enquêtes menées par un seul enquêteur juste après la Seconde Guerre mondiale. Un jeune docteur qui s'appelle Donald West, qui a une petite vingtaine d'années au moment où il commence à enquêter dans ses maisons, qui est originaire de Liverpool, qui est d'extraction assez modeste et qui, en arrivant dans la société, est projeté non seulement parmi une élite intellectuelle de son époque, il y a des grands noms des sciences expérimentales, un grand nom des sciences physiques, des grands noms de la psychologie, des médecins aussi, lui-même veut devenir médecin. Il se retrouve aussi plongé dans une classe sociale qui n'est pas la sienne. Quoi. Bref, ce jeune Donald West va aller dans plusieurs maisons hantées l'Angleterre de l'immédiat après-guerre, dans les années 46-49. Et je me concentre sur trois cas, trois enquêtes qui mènent dans trois familles, chez une vieille dame, qui se plaint d'apparitions en fait, à qui il arrivait un truc très précis, qui lisait dans son lit et qui, au moment où elle a levé la tête de son ouvrage pour regarder au-delà du pied de son lit, a vu quelqu'un. C'est jamais très agréable, quoi. Mais autant elle n'était pas du tout, elle se laissait pas du tout démonter par la possibilité qu'il y ait un intrus humain chez elle, autant au fur et à mesure, elle s'est rendue compte que le type se comportait bizarrement et avait des caractéristiques qui faisaient que ça ressemblait pas du tout à un intrus habituel. D'ailleurs, elle appelle la police et puis la police trouve rien elle se rend compte au fur et à mesure que ben, c'était possiblement pas une personne. Qu'est-ce qu'elle fait de ça ? Ben, c'est exactement la question qu'elle pose à Donald West. Qu'est-ce que je fais ça ? Donald West, lui, n'est pas du tout impressionné il conclut assez vite que, en fait, c'est des hallucinations d'une vieille dame et que ça n'intéresse absolument pas la recherche psychique. Ce qui est intéressant chez Donald West, c'est qu'il s'intéresse assez peu aux maisons hantées, en fait. Son intérêt, il est ailleurs. Lui, il est très sceptique. Et comme je vous disais, c'est un jeune provincial qui est projeté dans la haute société intellectuelle de son époque. Donc, il veut faire le bon élève. Hein. Il est payé, en plus, à un moment, pour faire ses enquêtes. Donc, il fait des très belles enquêtes. Il fait des enquêtes très méticuleuses. Il consigne tout. Il garde les lettres. Il recueille les articles de journaux. Il fait bien son job. Mais à la fin, il conclut toujours que ça n'a pas grand intérêt. Et au fur et à mesure des années, en 1948, hein, 49, il va conclure que les maisons hantées, en général, en fait, ça n'a pas trop d'intérêt. Et c'est ça qui est passionnant avec Donald West, c'est qu'il correspond, il incarne en fait un certain moment de la recherche psychique, le moment où les sciences psychiques, qui deviennent à ce moment-là la parapsychologie, se détournent des maisons hantées. Elles y reviendront après, hein. Mais il y a certains phénomènes qu'elles vont continuer d'examiner, notamment les phénomènes de poltergeist, sur lesquels on pourra revenir. C'est le sujet du livre que je suis en train d'écrire en ce moment, enfin que je n'ai pas encore commencé, n'allons pas trop vite, qui est un problème vastement différent, en fait. Et enfin, j'en parlerai avec plaisir après. Mais les maisons hantées, ces phénomènes un petit peu fuyants, toujours, qui ressemblent toujours plus ou moins à des hallucinations. Ça, la recherche psychique s'en détourne pendant plusieurs dizaines d'années. Ce qui excite Donald West au plus haut point, c'est le laboratoire. Là, c'est là où il se sent bien. C'est quand on peut contrôler les conditions de l'expérience, quand on peut faire varier les données d'une expérience et d'un problème. Et donc, ce qui se prête le mieux à ça, c'est la transmission de pensée, c'est la télépathie. Donald West, s'il pouvait disposer de son temps, il ne ferait que des tests de télépathie en laboratoire. Hein. Et là, il a une imagination folle, il est excité comme un écolier et tout ça. Aller dans les maisons hantées, écouter les gens qui supposent toujours des choses, qui anticipent sur l'enquête, du coup qui déforment leurs témoignages. On ne sait jamais s'ils se sont parlé avant, on ne sait jamais si ils n'ont pas derrière la tête un agenda et s'ils ne veulent pas se rendre intéressants en prétendant qu'il y a des fantômes chez eux. On ne sait pas non plus, en fait, si ils se rendent compte au fur et à mesure à chaque fois que les gens ils ont des fragilités psychologiques massives et que on peut pas vraiment faire la part entre ce qui relève d'une fragilité psychologique et ce qui relève d'un phénomène psychique réel. Donc à chaque fois il s'y rend et face à des témoins qui sont pleins d'espoir sur l'aide que va leur fournir Donald West se défile. Plus ou moins poliment, d'ailleurs. C'est-à-dire que des fois, la plupart du temps, il dit qu'il est vraiment désolé et qu'il ne peut pas vraiment les aider plus qu'il ne fait et qu'il peut seulement prendre leur témoignage en note. D'autres fois, il se contente juste de dire que ça ne l'intéresse pas et qu'il n'y a rien à espérer des phénomènes qu'on lui rapporte. Donc, ce qui est intéressant à travers ces cas, et ce à travers quoi j'ai étudié le problème des apparitions, c'est ce décalage. Ce décalage entre deux types d'enquêtes, en fait. Entre, d'une part, l'enquête des témoins qui ressort des archives, parce que, encore une fois, les enquêtes de Donald West sont très minutieuses. Donc, à travers ces documents, les documents qu'il produit, on voit le processus d'enquête qui est mis en branle par les témoins des apparitions et auquel Donald West est censé participer. Hein. Et on comprend que les fantômes, en tant qu'apparition, sont des phénomènes qui exigent une enquête immédiatement. Dans l'instant de l'événement de l'apparition, il y a une enquête qui se met en route. En fait, c'est ce que j'essaye de montrer dès le premier chapitre, il y a une configuration de l'expérience de l'apparition qui fait que il y a quelque chose qui manque, ça appelle l'enquête tout de suite. On ne peut pas ne pas s'engager dans un processus d'enquête. Et tous les témoins donc, qui sont au centre de ces différents chapitres sont engagés dans des processus d'enquête. Et ces enquêtes ont différentes destinées, quoi. Différents aboutissements. Il y a des phénomènes qui s'épaississent et qui, au fur et à mesure de l'intervention de différentes institutions ou de différentes personnes sollicitées pour poursuivre cette enquête, qui prennent des proportions qui dépassent parfois les habitants de la maison, parfois les institutions qui viennent enquêter. C'est le cas, par exemple, des Sœurs Stone, dans le deuxième chapitre, qui, au début, sont leur maison est le théâtre de phénomènes relativement discrets, ou en tout cas pas extrêmement spectaculaires, et au fur et à mesure que des institutions viennent enquêter, notamment des institutions spiritualistes, que des médiums viennent enquêter sur la possible présence de mort, ça prend des proportions qui donnent à la maison hantée et aux fantômes de différentes natures qui la traverse une existence de plus en plus manifeste. Hein. Le fantôme de la vieille dame au début, il a une existence très courte et très fragile, puisqu'elle n'arrive pas à mobiliser les gens qui seraient susceptibles de continuer de l'instaurer avec elle. Hein. Et donc l'apparition retombe un petit peu. Alors, pas pour cette dame, puisqu'elle continue d'enquêter et elle essaie d'enquêter au-delà de Donald West. Malheureusement, elle décède pas longtemps après son échange avec Donald West. Donc, ça ne donne rien, quoi, au-delà de son propre intérieur et de sa propre expérience. En fait, son expérience reste très individuelle. Mais il y en a d'autres qui ont d'autres cas d'enquête, notamment le troisième, donc. Qui est le plus rocambolesque, qui ont des devenirs un petit peu contrastés. Ce troisième cas, il se situe dans un dancing dans le nord de l'Angleterre, et c'est les propriétaires qui sont de plus en plus alarmés par les phénomènes qui se passent à l'intérieur et qui, là pour le coup, sont assez spectaculaires, puisque la vie des propriétaires du dancing est mise en danger. Il y a des gens qui passent à travers des verrières, qui sont poussés dans le vide les occupants, les propriétaires, pardon, enfin l'ami de la propriétaire est de plus en plus éprouvé nerveusement. Donc voilà, il y a ces enquêtes qui prennent des tours variés et qui se développent différemment selon les personnes et les institutions mobilisées. Mais par rapport à ces enquêtes, donc ces enquêtes contrastent très fortement avec les enquêtes menées par Donald West et par la Société de recherche psychique. Et les enquêtes de Donald West et les raisons pour lesquelles Donald West juge les maisons hantées irrecevables du point de vue de la recherche psychique sont presque aussi intéressantes que les enquêtes des témoins pour comprendre ce dont les fantômes sont faits. Puisque ça pose la question éternelle presque, mais ça la pose à partir de documents précis. Et c'est en ça que ces archives dépassent largement les espoirs que j'avais placés en elles. Ça pose la question éternelle de pourquoi les fantômes sont-ils si difficiles à étudier scientifiquement. Contrairement à plein d'autres trucs sur lesquels les anthropologues travaillent, qui sont possibles à étudier de différentes perspectives, et possiblement selon des sciences expérimentales, hein, on pense à la parenté par exemple, les fantômes, ça échappe toujours à l'enquête scientifique. Ça semble toujours échapper à l'enquête scientifique. Mais en même temps, ça continue sans cesse de l'appeler. Hein. Et donc, il y a ce contraste qui est très intéressant à prendre en charge anthropologiquement à partir de ces archives entre l'exigence et l'exigence très aiguë, intense d'une enquête et l'échec d'un certain type d'enquête. Et c'est entre ces deux constats que j'essaye de poursuivre l'anthropologie des apparitions que d'autres auteurs avaient poursuivi à partir de différents matériaux, notamment Elisabeth Clavry sur les apparitions mariales ou Anne-Christine Taylor sur les esprits chez les Achuar, Christophe Pons sur les fantômes en Islande, etc. Il y a quelque chose dans le rapport entre les fantômes comme expérience perceptive et l'enquête comme processus à partir duquel les fantômes en viennent à exister comme tels, qui ressort de façon, à mon avis, exemplaire de ces archives et que j'ai essayé donc de montrer. Ça me permet donc de revenir et de conclure, puisqu'il est temps, sur le contexte. L'enjeu de la tentative anthropologique d'analyser ces apparitions en tant qu'apparitions était justement d'essayer d'éviter de réduire les fantômes au contexte. Ce qui n'est pas facile, en fait. Parce que les fantômes, ça semble être des condensés d'histoire. Hein. Qu'est-ce que c'est que les fantômes, si ce n'est du temps qui nous revient en pleine face, en fait. Hein. Et donc, c'est difficile d'étudier les phénomènes de hantise sans les ramener au contexte historique dans lequel ils semblent évidemment s'inscrire. Et c'est indéniable. Et ce livre est consacré à des cas de fantômes qui se passent juste après la Seconde Guerre mondiale. Il y a des soldats qui reviennent du front dans chacune des enquêtes. On pourrait tout à fait étudier ces fantômes, ces cas, comme des fantômes de la guerre. Hein. C'est ce qu'a fait, par exemple, c'est ce qu'ont fait d'autres anthropologues. Le cas le plus convaincant à cet égard était Eonie Kwon, qui a fait un superbe livre que je vous conseille. Malheureusement, il n'est pas traduit en français, mais qui s'appelle Ghost of War in Vietnam, qui est assez cité maintenant par les anthropologues. Dès qu'on parle d'anthropologie de fantômes, on cite ce livre, et a raison, parce que c'est un très beau livre, qui étudie comment les fantômes sont des émanations de l'histoire, des émanations matérielles. En fait, des émanations à partir desquelles on peut interagir avec l'histoire. Des émanations à partir desquelles la société vietnamienne peut réparer son histoire. En adoptant les fantômes, on peut réparer l'histoire de la dissension entre Nord et Sud qui a déchiré le pays pendant des dizaines d'années. En adoptant, quand les familles du Nord adoptent les fantômes du Sud, et inversement, on refait un contrat social, quoi. En monnaie sonnante et trébuchante, à travers des spectres. Hein. Donc, c'est extrêmement dur de résister à l'appel de ce genre de geste analytique de ce geste explicatif. C'est très difficile de rendre compte d'apparitions sans essayer de les expliquer, sans essayer donc de les ramener à quelque chose qui est extérieur à elles. Ce n'est que cela. C'est-à-dire, c'est autre chose que ce que ce n'est. Les fantômes, c'est de l'histoire. Les fantômes, c'est de la psychologie. Ou les fantômes, c'est de la sociologie. Hein. Tous les arguments ont été utilisés par des anthropologues à un moment ou à un autre. Hein. Les anthropologues ont utilisé la psychologie expérimentale pour expliquer les fantômes, les anthropologues ont utilisé l'histoire pour expliquer les fantômes, et les anthropologues ont utilisé la sociologie pour étudier les fantômes. L'idée de ce livre, la tentative, c'est d'essayer d'étudier les fantômes en eux-mêmes et pour eux-mêmes. C'est-à-dire de voir ce qui apparaît quand les fantômes apparaissent. Et de comprendre, en fait, quel genre d'événement perceptif et social, interactionnel, est une apparition. Sans essayer d'essayer de sortir des fantômes et du cercle, de la sphère des apparitions, pour en expliquer la cause. C'est d'essayer de rendre compte des fantômes sans en trouver nécessairement de cause. Et donc, vous me voyez venir, d'essayer de se donner toutes les chances de saisir les fantômes tels qu'ils existent. et donc de comprendre à quel genre de mode d'existence les fantômes doivent leur présence parmi nous. Je vais m'arrêter là pour qu'on puisse discuter tous ensemble.
Avant tout, un grand merci.